Orange Monnaie, transfert d'argent et paiement de factures, simple, rapide, économique, vous propose Appel sur l'actualité.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Arnaud Pontus.
Bonjour et bienvenue dans Appel sur l'actualité. RFI vous donne la parole jusqu'à 9h, temps universel. Dans 30 minutes, nous ouvrirons le débat autour des casques bleus en République démocratique du Congo. Ils sont fortement contestés ces derniers jours après les attaques de la rébellion ougandaise de l'ADF dans la région de Beni, dans la province du Nord Kivu. Ces attaques ont fait des morts et des blessés depuis le début du mois d'octobre. Alors la population de Beni accuse les casques bleus d'être incapables de la protéger, de ne pas avoir fait son boulot. Des bases de la mission de l'ONU ont été attaquées par des manifestants en colère. Qu'en pensez-vous? Vos réactions, vos témoignages sont les bienvenus. Comme chaque jour sur cette antenne, vous nous appelez au 33 9 693 693 70 09 693 693 70 si vous appelez de France. Vous n'oubliez pas les réseaux sociaux Twitter et Facebook pour poster vos messages. Mais pour l'heure, vos questions à la rédaction, vos questions aux journalistes de RFI pour comprendre et approfondir les sujets qui font l'actualité. Dans les 20 prochaines minutes, on va parler des rebelles kurdes et de la Turquie, de la crise politique Lesotho, des relations entre le Burkina et Taïwan, du FMI et du Mali. Et le premier auditeur en ligne ce matin, c'est Aboubacar en ligne de Luanda en Angola. Bonjour Aboubacar.
Bonjour monsieur Arnaud Pontus. Bonjour à tous les auditeurs de RFI, en particulier mon petit frère Mamadou en Guinée-Sidiri.
Alors vous avez une question concernant le regain de tension entre le PKK et la Turquie, en marge de la guerre menée en Syrie contre l'organisation de l'État islamique. On va rappeler d'abord que le 13 octobre dernier, la Turquie a bombardé des positions rebelles du Parti des travailleurs du Kurdistan. Ankara a donc, en quelque sorte, préféré bombarder des combattants kurdes dans le sud-est turc plutôt que les djihadistes à Kobané en Syrie. Et vous avez donc une question, Aboubacar.
Exactement. Ma question est maintenant, le 13 octobre, la Turquie a bombardé les positions des rebelles kurdes de PKK, ce qui n'était pas arrivé depuis mars 2013. Ma question maintenant est de savoir quelles seront les conséquences d'une rupture de cessez-le-feu entre Ankara et les rebelles kurdes de PKK.
Alors, c'est Daniel Valo du service international qui était élu encore il y a quelques jours en Turquie qui est avec nous pour vous répondre. Bonjour Daniel.
Bonjour.
Quelles conséquences s'il y a fin du cessez-le-feu donc entre le PKK et les autorités turques?
Alors bien sûr, c'est logique, hein, la reprise des hostilités entre le mouvement rebelle et les forces de sécurité, ce qui aurait en soi des conséquences terribles puisque, rappelons-le, ce conflit a fait plus de 40 morts entre les années 80 et 2012, date de la signature du cessez-le-feu. Alors dans ce scénario, il y aurait un retour sur le territoire turc des combattants du PKK qui avaient accepté, suite à ce cessez-le-feu, de se replier du côté irakien de la frontière. Il y aurait une reprise des affrontements directs entre ces combattants et l'armée turque, et aussi une répression des forces de sécurité, non seulement contre le PKK, mais aussi contre toutes les formations politiques et les militants qui le soutiennent de près ou de loin. Autre conséquence, bien entendu, la fin des négociations politiques entre le gouvernement et le PKK, et donc la fin d'un espoir, celui de voir le Kurdistan turc bénéficier de la grande réforme politique et culturelle qui lui permettrait de se considérer enfin comme étant respecté et accepté en tant que région autonome au sein de la Turquie. Cela dit, cet espoir était devenu bien mince, en particulier chez les Kurdes, qui se montraient de plus en plus sceptiques quant à la volonté réelle du président Erdogan de faire de véritables concessions sur ce plan-là.
Alors, on comprend bien qu'il y aurait des conséquences lourdes à l'intérieur. Plus largement, Daniel, il y aurait évidemment des conséquences géostratégiques au niveau de la région tout entière.
Bien évidemment, en raison pour l'essentiel de la guerre civile en Syrie et de l'émergence de l'État islamique, la donne a totalement changé pour les Kurdes, que ce soit en Irak, en Syrie et donc forcément en Turquie depuis les années 2000. Le Kurdistan irakien est de plus en plus tenté par l'indépendance et il a étendu pouvoir et zone d'influence depuis la prise de Mossoul par l'État islamique. En Syrie, les Kurdes ont acquis une indépendance de facto à la faveur de la guerre civile. Restent donc les Kurdes de Turquie qui ne peuvent assister à tous ces changements sans aspirer eux aussi à davantage d'autonomie, sans vouloir renouer peut-être avec les vieux rêves d'indépendance et pourquoi pas avec le rêve d'un Kurdistan unifié. Une reprise des hostilités entre le PKK et Istanbul se ferait dans ce contexte-là, avec en outre le sentiment que les frontières frontières héritées du XXe siècle sont en train d'être remises en cause. Tout cela est évidemment, Arnaud, très dangereux du point de vue de la Turquie.
Et justement, qui aurait le plus à perdre, en quelque sorte, d'une reprise des hostilités entre le PKK et la Turquie ?
Alors, du point de vue du PKK, ce serait un échec dans la mesure où la direction du PKK a décidé avec son chef Abdullah Öcalan de renoncer à la lutte armée, d'accepter une sortie négociée du conflit, reprendre les armes, renouer avec la guérilla. Ce serait reconnaître que ce choix-là était une erreur. Et comme dans tout mouvement de ce type, il y a bien sûr des tensions entre les partisans de la manière forte et ceux de la négociation. Mais c'est sans doute le président turc Recep Tayyip Erdogan qui aurait le plus à perdre dans une reprise des hostilités. D'abord parce que politiquement, il a besoin d'une partie des voix kurdes pour remporter les prochaines élections et pour imposer ses réformes. Ensuite, parce que avec la crise de Kobané, il y a un risque d'embrasement de toute la population kurde de Turquie. Le risque pour Erdogan et la Turquie serait de devoir affronter non seulement la guérilla du PKK, mais aussi des manifestations pro-kurdes qui déstabiliseraient profondément le pays. A priori, les deux parties ont donc plutôt intérêt à éviter une reprise des hostilités, mais tout dépendra bien sûr de ce qui va se passer en Syrie, de l'autre côté de la frontière, et en particulier à Kobané.
Oui, et de ce côté-là, hein, on rappelle que les forces kurdes qui défendent la ville de Kobané ont repoussé ces dernières heures un nouvel assaut des djihadistes de l'État islamique. Merci Daniel Valo. Aboubakar, est-ce qu'on a bien répondu à votre question ?
Vraiment, vous avez bien répondu à ma question, merci.
Merci Daniel, bravo et merci à vous Aboubakar, bonne journée à Luanda. On rejoint maintenant Bouhari qui nous appelle de Niamey au Niger pour évoquer la crise politique au Lesotho. Bonjour Bouhari.
Bonjour Monsieur Arnaud.
Alors deux mots d'abord, pour situer ce dont on va parler, le Lesotho, petit royaume d'Afrique australe, a connu un coup d'état manqué, c'était à la fin du mois d'août. Un coup de force de l'armée, le Premier ministre avait dû fuir en Afrique du Sud et depuis, bien, l'Afrique du Sud tente de dénouer la crise. Il y a un accord qui a été conclu jeudi dernier. Et Bouhari, vous avez des questions, on vous écoute pour la première.
D'accord. Le Premier ministre du Lesotho s'était vu réfugié en Afrique du Sud, menacé par un coup d'état militaire. L'Afrique du Sud a rétabli la vie politique là-bas. Quelle influence l'Afrique du Sud a sur le Lesotho ? Le Lesotho est-il dépendant de l'Afrique du Sud ?
Alors, on va poser ces questions, Bouhari, à notre correspondante permanente en Afrique du Sud, Alexandra Branjon. Bonjour Alexandra.
Bonjour.
Alors d'abord, quel rôle l'Afrique du Sud a-t-elle joué, c'est ce que nous demande Bouhari, dans la gestion de la crise politique que traverse le Lesotho ?
Alors justement, le vice-président sud-africain Cyril Ramaphosa était au Lesotho pas plus tard que la semaine dernière pour faire un point sur le processus de sortie de crise. Alors je rappelle qu'au moment du coup de force de l'armée le mois dernier, l'Afrique du Sud a rassemblé les différents protagonistes de cette crise à Pretoria. Alors il s'agit du Premier ministre Thomas Tabane et de son rival, le vice-premier ministre Motejo Ahmed Singh. Et Pretoria a négocié un accord. Les deux parties se sont engagées à travailler ensemble et résorber le conflit qui existe, dont la ouverture du Parlement. Donc l'Afrique du Sud est médiateur dans cette crise. Elle le fait en tant que membre de l'organisation régionale, la SADC, où elle assure la présidence de la Commission de défense et de sécurité. Cyril Ramaphosa a été au Lesotho donc, la semaine dernière, je vous le disais. Il a négocié avec le général rebelle à l'origine du coup de force qu'il prenne un congé. Lui, son rival, le chef de la police, un autre général, ainsi que le chef de la police, tous trois vont déléguer leur autorité à leur adjoint pour une durée indéterminée. Parce que derrière cette rivalité entre le Premier ministre et son adjoint, il y a une rivalité entre l'armée et la police qui soutiennent chacun un camp différent.
Alors, Bouhari avait une deuxième question pour vous, Alexandra. Est-ce que le Lesotho est aujourd'hui entièrement dépendant de l'Afrique du Sud ? Quelle est en fait l'influence de l'Afrique du Sud sur ce pays ?
Alors oui, pourquoi est-ce que l'Afrique du Sud attache autant d'importance au Lesotho ? Tout simplement parce qu'une instabilité au Lesotho pourrait menacer l'Afrique du Sud de plusieurs façons. Économique, tout d'abord. Le Lesotho fournit de l'eau et de l'électricité à l'Afrique du Sud et dont peut menacer son approvisionnement. Ensuite, des milliers d'habitants du Lesotho travaillent chez leurs voisins. Le pays est pauvre. Et donc, une instabilité supplémentaire pourrait accentuer une émigration vers l'Afrique du Sud qui connaît déjà un chômage à 25%. Sécuritaire. Si la sécurité s'effondre à l'intérieur du pays, il y a moins de contrôle aux frontières et donc cela veut veut dire une augmentation des trafics, dont des trafics d'armes. Donc à tous les niveaux, l'Afrique du Sud est perdante. Et enfin, je le disais, l'Afrique du Sud assure la présidence de la commission de défense et de sécurité de la SADC et donc à ce titre est responsable de la stabilité dans la région. Et Pretoria ne veut surtout pas d'un autre voisin instable.
Ouais, on a bien compris que l'Afrique du Sud a tout intérêt à ce que les autos soient donc un voisin stable. Merci Alexandra Branjon pour ces éclairages. Boiry, à Niamey, vous êtes satisfait des réponses? Est-ce qu'on a répondu à vos questions?
Merci, je suis très satisfait.
Merci à vous Boiry et on vous souhaite une excellente journée à vous. On poursuit avec vos questions sur l'actualité sur RFI. Avant le débat, dans 20 minutes maintenant, autour des casques bleus contestés en RDC, on rejoint à présent Amidou. Bonjour Amidou.
Bonjour Arnaud.
Vous nous appelez de Ouagadougou. Bonjour à vous et vous nous appelez de Ouagadougou. Vous avez une question concernant les relations de votre pays, le Burkina Faso, avec Taïwan.
Effectivement.
On vous écoute.
Le Burkina Faso est l'un des rares pays à avoir une coopération bilatérale avec la Taïwan. À ce propos, j'aimerais savoir quelles sont les conséquences que a le Burkina en collaborant avec Taïwan plutôt que la Chine. Et en deuxième, je voudrais savoir, est-ce que Taïwan entretient des coopérations bilatérales avec d'autres pays africains?
Alors, on va répondre à tout ça. Amidou, effectivement, on va rappeler que Blaise Compaoré était à Taïwan au début du mois. Il a assisté au 103e anniversaire de la fête nationale du pays. Et le Burkina, depuis longtemps, fait le choix de Taïwan plutôt que de la Chine continentale. Pour vous répondre, Gaël Lalex est en studio avec nous. Bonjour Gaël.
Bonjour.
Du service économie de RFI. Qu'est-ce que cette coopération avec Taïwan apporte au juste au Burkina?
Eh bien, cela fait aujourd'hui 20 ans que Ouagadougou a fait le choix de reconnaître la République de Chine, c'est-à-dire Taïwan. Et qu'on se le dise, dans la guerre diplomatique que mènent Taipei et Pékin, l'arme principale, c'est le carnet de chèques. Et donc Taïwan n'a pas lésiné sur les moyens pour séduire le Burkina. En 94, quand le président Blaise Compaoré fait le choix de Taïwan, il est en train de lancer les engagements nationaux. C'est un vaste programme de lutte contre la pauvreté qui favorise par exemple la scolarisation des filles, le développement de l'agriculture irriguée ou encore l'accès à l'eau potable. Un programme ambitieux et donc extrêmement coûteux. Le Burkina aurait bien besoin d'un coup de pouce et Taïwan tombe à point nommé. Et de fait, aujourd'hui, la petite île est le premier bailleur de fonds des engagements nationaux. Depuis 2004, l'aide au développement de Taïwan s'élève en moyenne à 18,5 millions d'euros par an, ce qui en fait le quatrième partenaire du Burkina Faso après la France, les Pays-Bas et l'Allemagne. L'aide taïwanaise a permis de financer des grands projets comme la construction du centre hospitalier de Tengandogo pour 68 millions d'euros, la construction du barrage de Yakuta ou encore celle du palais des sports de Ouaga 2000. Taïwan a mis en place diverses aides économiques. Il y a notamment le fonds d'appui au secteur informel, le fonds d'appui à la promotion de l'emploi ou encore le fonds d'appui aux activités rémunératrices des femmes. Et à cela s'ajoute une coopération importante dans le domaine de l'éducation. Aujourd'hui, plus de 160 jeunes burkinabés mènent leurs études à Taipei.
Alors, beaucoup de secteurs de coopération entre les deux pays. Est-ce que ça veut dire, Gaël, que le Burkina, finalement, n'a rien à perdre en choisissant de collaborer avec une toute petite île comme Taïwan, plutôt qu'avec la Chine, la deuxième puissance économique mondiale?
Eh bien, en fait, pas tant que ça, parce que quand il s'agit d'affaires, la République populaire de Chine n'est pas très rancunière. Même si le Burkina n'a plus de relations diplomatiques avec la Chine, cela ne l'empêche pas d'avoir des relations commerciales. Aujourd'hui, la Chine est d'ailleurs son cinquième partenaire. Elle achète près des trois quarts de la production de coton du Burkina et elle importe massivement ses produits manufacturés qui représentent près de 10% des importations au Burkina. D'autre part, il faut dire qu'aujourd'hui, Pékin et Taipei essayent de normaliser un peu leurs relations et le Burkina ne représente certainement pas un enjeu commercial suffisamment important pour que la Chine y cristallise son ressentiment.
Alors, Amidou, vous aviez une autre question que vous avez évoquée au début de cet appel. Est-ce que vous pourriez nous la rappeler, s'il vous plaît, Amidou?
Oui, je voulais savoir également si Taïwan entretient une coopération bilatérale avec d'autres pays africains autres que le Burkina.
Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres pays que le Burkina qui ont fait le même choix que le Burkina Faso?
Oui, absolument, mais on ne peut pas dire que ce soit ni les plus riches ni les plus influents. Il s'agit aujourd'hui de São Tomé et Principe et du Swaziland. Jusqu'à l'année dernière, la Gambie faisait partie du petit groupe des alliés de Taïwan, mais elle a fini par succomber aux avances de Pékin. Autre allié très important, il y avait le Sénégal qui est longtemps resté dans l'escarcelle de Taipei, mais qui lui a tourné le dos en en 2004. Il faut savoir que les États africains pratiquent depuis longtemps le yo-yo entre la Chine continentale et Taïwan. Le Burkina lui-même a d'ailleurs suspendu ses relations diplomatiques avec la petite île asiatique pendant près de 20 ans à partir de 1973. Le curseur, c'est toujours le fameux carnet de chèques, mais il faut reconnaître que Taipei n'a pas la puissance de feu de la Chine populaire. La petite île a d'ailleurs perdu beaucoup de terrain. En 1969, 71 pays la reconnaissaient, ils ne sont plus que 22 aujourd'hui.
Et donc, 3 pays africains au total, dont le Burkina Faso, dont on parlait avec vous, Gaël Lalex, ce matin. Merci Gaël. Amidou, avez-vous eu toutes vos réponses ?
Vraiment, je suis très satisfait. Merci beaucoup.
Et merci de rester fidèle à Appel sur l'actualité sur RFI. Merci à vous. À bientôt, Amidou. Et pour terminer cette première partie, on rejoint Abdoulaye en ligne de Sikasso, Mali. Bonjour, Abdoulaye.
Bonjour, Arnold.
La semaine dernière, on avait commencé à répondre à certaines de vos questions sur la reprise des versements du FMI au Mali. Les prêts, on le rappelle, étaient suspendus depuis mai dernier suite à des malversations. Malversations autour de l'achat de l'avion présidentiel ou encore des contrats passés par la défense. Il y a eu des corrections, des enquêtes judiciaires sont ouvertes. Et vous aviez encore eu une question sur ce dossier, Abdoulaye.
Oui, Arnaud, moi j'aimerais savoir quelles mesures ont été appliquées par le FMI pour que ces genres de situations ne se reproduisent plus.
Alors, pour vous répondre, David Baché, l'un des correspondants de RFI au Mali, est avec nous. David, bonjour.
Bonjour Arnaud, bonjour Abdoulaye, bonjour à tous.
Et Abdoulaye donc vous demande si le FMI a prévu des dispositions pour éviter de nouvelles malversations et de nouveaux manquements.
Alors, oui, des dispositions ont été prévues, mais elles ont été prévues par l'État malien, sous la pression du FMI, ça c'est sûr, mais c'est Bamako qui fait les lois maliennes. En fait, il y a une mesure principale, c'est la correction d'un article du Code de marché public. Alors il faut comprendre que ce qui a permis toutes ces malversations, ce qui a permis l'opacité dans laquelle tous ces contrats ont été passés, c'est une disposition très précise du Code de marché public malien, c'est l'article 8. Cet article disait que les achats secrets défense, les achats qui correspondaient aux intérêts essentiels de l'État, ne devaient pas être soumis aux autorités de contrôle qui vérifient habituellement la mise en œuvre de ce code des marchés publics. Donc, en clair, c'est un article qui permettait de contourner, d'éviter les règles habituelles de transparence et de concurrence. Bref, il permettait d'agir dans le secret et donc il permettait les abus.
David, on entend bien que vous parlez au passé, vous dites que ça permettait les abus. Est-ce que ça veut dire que cet article du code des marchés publics n'existe plus aujourd'hui ?
Si, cet article existe toujours, mais il a été modifié pendant même la visite de l'équipe des enquêteurs du FMI fin septembre, et il a été modifié en Conseil des ministres. Alors, sans être trop technique, les modifications fixent par exemple des seuils. Si les contrats dépassent un certain montant, eh bien le ministre de la Défense sera obligé de demander l'accord de son homologue des finances. Et si les montants sont vraiment très importants, alors il devra même solliciter l'accord de tout le Conseil des ministres. Autre point, il y aura dorénavant un appel d'offres systématiquement. Ce sera un appel d'offres restreint si les achats sont jugés sensibles, mais il devra avoir lieu. Fini donc les contrats de gré à gré. Et enfin, une liste très limitative des biens qui peuvent être achetés dans le cadre de cet article 8 a été établie. Des armes ou encore des équipements de télécommunications délicats pourront être achetés dans ce cadre, mais un avion présidentiel, non.
Abdoulaye, est-ce qu'on a bien répondu à vos questions ?
Oui, Arnaud, on a bien compris de la question.
Merci à vous et bonne journée à vous à Sikasso au Mali où vous nous écoutez fidèlement, je le sais. Merci aussi à David Baché, notre correspondant au Mali, l'un de nos correspondants au Mali. Bonne journée à vous tous. Vous restez avec nous pour la suite d'appels sur l'actualité. Dans une dizaine de minutes, on ouvre le débat autour des casques bleus en République démocratique du Congo. Ils sont contestés ces derniers jours après les attaques de la rébellion ougandaise de l'ADF dans la région de Beni, dans la province du Nord Kivu, c'est dans l'est de la RDC. Ces attaques, elles ont fait plus de 80 morts. La population de Beni accuse les casques bleus d'être incapables de la protéger. Des bases de la mission de l'ONU ont été attaquées par les manifestants en colère. Qu'en pensez-vous? Vous nous le dites au téléphone, vous appelez le standard, je vous rappelle le numéro 33 9 693 693 70 09 693 693 70. Si vous nous appelez de France, il y a déjà beaucoup de messages sur les réseaux sociaux, Twitter et Facebook. J'en cite quelques-uns. Jean-Claude Kinshasa qui estime que les casques bleus ne font que du tourisme dans l'Est. Un autre auditeur nous écrit que le Congo n'a pas besoin des casques bleus, qu'ils partent. On va régler nos problèmes sans eux. Et d'autres sont plus modérés, comme Patrick qui estime que la mission de sécuriser des personnes et leurs biens revient d'abord au gouvernement congolais et que la MONUSCO ne fait qu'accompagner. On ouvre le débat dans des minutes.